Lumière des Nations à Lyon. On a implanté cette église en 2014. C'est une église qui a aujourd'hui bien grandi, qui est une église où on est heureux de vivre la louange, d'approfondir dans la parole. Je suis marié avec Pauline. Alors Pauline, vous n'allez pas la voir aujourd'hui parce qu'elle dort, parce qu'elle travaille à l'hôpital. Elle est sage-femme et donc elle a travaillé cette nuit et donc là elle se repose. Et j'ai trois petits-enfants, Étienne, Emmanuel et Marie, peut-être vous les avez vus, de 7, 7 et 9 ans. Et comme d'habitude, ils vont être assez calmes, donc je ne pense pas qu'ils vont me déranger. Mais si c'est le cas, sachez que c'est parce que je suis avec eux aussi et que maman, elle dort. Donc, on prendra le temps s'ils ont besoin aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment une joie d'être là. Et cette invitation, elle fait suite à une demande que je puisse enseigner peut-être à peu près 3 fois par an de manière… manière vraiment plus forte les après-midi d'enseignement que vous avez. Et j'ai hâte déjà d'être cet après-midi, même si j'ai vraiment envie de vous dire quelque chose ce matin. Mais c'est vraiment super que votre église prenne si souvent des temps d'enseignement approfondi. Vous êtes une des églises qui le fait bien. Et voilà, moi, je me réjouis d'être avec vous pour ça. OK. Alors… Je vais passer au steak maintenant. Ça, c'était l'entrée ou l'apéro. J'ai demandé à Farid sur quel sujet je devrais prêcher parmi vous aujourd'hui. Et il m'a répondu sur la discipline. Non, je rigole. Non, ce n'est pas vrai. Il m'a répondu, tu peux prêcher ce qu'il y a sur ton cœur. Et donc, ça veut dire qu'il me fait un peu confiance. Mais j'ai quand même entendu, Farid, que tu priais pour que j'aie beaucoup, que je sois inondé de sagesse. Donc, quand même, tu sais que tout n'est pas parfait. Et tu as raison. Donc, je retiens. Et c'est vrai, je ne sais pas si je suis extrêmement sage, mais j'ai carte blanche. Donc, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Je vais prêcher ce qu'il y a sur mon cœur ce matin et qui est conforme à l'Écriture, évidemment, je l'espère en tout cas. Et c'est un thème qui me tient à cœur et qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. Et qui, je pense, commence à mûrir suffisamment pour que je puisse en parler. Et vous allez me dire, mais c'est tout ce que vous avez prié tout à l'heure. Oui, ce thème, c'est l'amour de la sagesse, de la science et de l'instruction. J'ai envie de parler de ça, de l'amour de la sagesse, de la science et de l'instruction. Et je veux commencer en citant le Proverbe chapitre 1, verset 7. Qui dit, et vous connaissez bien cette parole, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, en fait, ce verset, il nous dit plusieurs choses. Le commencement de la science, de la connaissance, de ce que nous devons connaître le plus important, le commencement, c'est la crainte de l'Éternel. Et on est peut-être parfois… oublié de ça, mais notre relation à Dieu, c'est une relation avec un Créateur tout-puissant qui pourrait dire c'est la fin, qui a dit commençons l'univers, la terre, la création, qui a tout pouvoir entre ses mains. Et lorsqu'on s'approche de lui, en fait, on s'approche d'une personne qui est éminemment différente, éminemment grande, éminemment puissante, et qui devrait nous inspirer, non pas une peur terrible, mais une crainte. Filiale, comme un bon père de qui on sent l'importance et auquel on veut se soumettre. Et lorsqu'on est dans cette attitude de soumission avec l'Éternel, on se met à l'écoute de ce qu'il nous dit, on se met à vouloir obéir à ses instructions. Et ça, on le fait pas parce qu'il le faut, mais parce qu'on a la conviction intime que c'est ce qui est bon pour nous. Et j'aimerais que tout ce que je dis aujourd'hui soit inclus dans cette certitude que ce que Dieu nous demande, ce n'est pas des caprices d'un Dieu omnipotent qui voudrait que tout le monde soit soumis à lui de manière tyrannique, mais c'est le désir d'un Dieu qui nous aime profondément. Et donc, on avance avec crainte, mais une crainte qui est une crainte sainte, saine, d'un amour qui nous aime, d'un Dieu qui nous aime, pardon. Et donc, dans le contexte des proverbes, donc j'ai cité ce proverbe, la sagesse, la science et l'instruction, ce n'est pas de connaître tout ce qui est écrit dans le dictionnaire, mais plutôt de connaître tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et je pense que vous êtes d'accord avec ça. De connaître ce qui sort de la bouche de Dieu, ses commandements et ses conseils. Et c'est ce qu'a prié tout à l'heure la sœur, que ce qui soit apporté, ce qui soit dit, ne soit pas des choses qui soient de l'intelligence humaine, mais qui viennent vraiment de la sagesse de Dieu. Et être dans cette posture d'écouter l'instruction et la sagesse, c'est de vouloir accéder, entendre le cœur de Dieu pour nous. Mais je n'ai pas, comment dire, envie de limiter, quelque sorte, l'instruction et la sagesse uniquement à quelque chose de, et je mets des guillemets, religieux. Et vous allez comprendre avec mon développement. Vous savez, le mot religieux, c'est un mot qui veut dire relier. Hein, ça vient du latin religare, c'est ce qui fait le lien. Donc, quand je dis religieux, je ne pense pas à un ensemble de rites de manière imposée. Je pense à ce que Dieu a mis en place pour que nous ayons une relation avec lui. D'accord ? Et très souvent, en tant que chrétien, on met en avant notre relation avec Dieu. Ce qui compte, c'est notre relation avec toi, papa. Ça, c'est vrai. Souvent, on va s'intéresser à écouter la parole de Dieu, à entendre l'instruction de Dieu pour cette chose-là. Et c'est fondamental. Ce n'est pas une question pour moi, c'est fondamental. Mais en réalité, il y a des connaissances qui peuvent être profanes, qu'on peut penser être pas religieuses, auxquelles Dieu veut qu'on s'intéresse et pour lesquelles il veut qu'on prenne plaisir. Je vais essayer de prendre des exemples tirés de la vie quotidienne et de la Bible pour vous expliquer ça. Et bien sûr, on va parler ensuite évidemment de l'amour de la parole de Dieu et des instructions liées à notre relation avec lui. Mais j'ai envie de marquer ça parce que ça me semble important. Vous savez, il y a peut-être parmi vous des gens qui sont médecins. Et je suis persuadé que vous êtes d'accord que c'est bien qu'ils ne soient pas que plongés dans la Bible, mais qu'ils sachent leur science, la médecine. Parce que le jour où vous allez les voir, c'est comme ça que vous allez être guéri. D'accord ? Et Dieu n'est pas contre ces choses. Il faut que les médecins étudient la médecine et c'est une bonne chose. D'accord ? Il y en a peut-être parmi vous, je le sais d'ailleurs, qui sont architectes, d'autres qui sont maçons, d'autres qui sont professeurs. OK ? Et en fait, c'est une très bonne chose. Et on ne se rend pas toujours compte que toutes les connaissances qui sont autour de nous dans ce monde, qui nous permettent d'être un bon maçon, qui nous permettent d'être un bon architecte, qui nous permettent d'être un bon médecin, en fait, c'est une chose que Dieu a donnée pour qu'on le connaisse mieux, lui. Vous savez, Dieu est un médecin. Dieu est un architecte. Dieu est un maçon, il a façonné la terre. Dieu est un professeur, il nous enseigne. Et alors que chacun, dans son métier, dans ce qu'il fait chaque jour, apprend ces choses, en fait, par ricochet, il apprend des choses sur Dieu. Il approfondit quelque chose que Dieu a mis là, dans la création, pour être étudié et finalement pour le connaître mieux lui. Et j'ai envie de dire ça parce que parfois, on sépare un peu ce qui est de l'ordre spirituel et ce qui est de l'ordre matériel. Mais en réalité, le monde entier, l'univers a été créé par ce Dieu-là. Et je crains parfois que nos communautés puissent se replier sur elles-mêmes, devenir sectaires presque, et penser qu'elle a une connaissance, une sorte de gnose qui serait la Bible et sur laquelle il faudrait se refermer. Non, en fait, on a accès à une sagesse éternelle de Dieu qui s'appelle l'Évangile, et qu'on doit porter dans le monde, mais en étant pertinent dans ce monde. J'espère que ça vous encourage que je dise ça, mais j'ai envie de souligner encore plus pourquoi je dis ça. Dans 1 Roi, au chapitre 4, au verset 29 à 34, il y a ce passage où Dieu donne de la sagesse à Salomon. Et on va lire un petit peu ce passage. Il est écrit, à partir du verset 29, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Donc imaginez, il a des connaissances multipliées comme le sable au bord de la mer. Alors, bien sûr, c'est une parole qui est un peu poétique, mais ça veut dire qu'il multiplie et multiplie et multiplie des connaissances. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné une sagesse. Okay? Et le verset continue en disant « La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient, de toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Zrachites, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Machol. Et sa renommée était répandue parmi les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope, qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. » Donc là, j'essaye juste d'insister sur un point. Les nations du monde venaient voir Salomon à cause d'une sagesse qui ne touchait pas uniquement à sa connaissance de Dieu, mais aussi à sa connaissance des arbres, des oiseaux, des reptiles, de la nature, quoi. Et toute cette connaissance de ce que Dieu a fait autour de nous, en fait, lorsque nous la contemplons, lorsque nous la connaissons, lorsque même nous la maîtrisons, fait qu'il y a des gens du monde entier qui peuvent porter le regard vers nous. Et je crois que ça, ce n'est pas contradictoire avec le fait d'avoir l'évangile chevillé au corps, mais qu'au contraire, quand les nations du monde entier venaient à Salomon, Salomon, finalement, pouvait se présenter lui-même comme ayant reçu l'amour de ces choses par l'Éternel lui-même. Et en fait, dans vos métiers, dans vos professions, à l'école, ou dans vos passions, dans vos hobbies, dans les choses que vous aimez, il y a un appel, en fait, à l'excellence, il y a un appel à la recherche, il y a un appel à la connaissance et à l'instruction, qui est en fait un pont pour rejoindre les gens qui sont autour de nous. Et ça, en fait, on ne le prend pas toujours en compte, mais je crois que c'est en fait un des moyens forts pour être pertinent dans le monde, dans la société aujourd'hui. Alors, j'avance un peu, parce que je ne veux pas en rester là, mais je crois qu'il y a parfois dans nos églises, et je dis nos églises avec de manière très large, dans les églises protestantes, évangéliques, au niveau même européen, la peur de ce qui est de l'ordre de la raison. Et tout à l'heure, d'ailleurs, dans la prière, c'était ça qui est dit, que ça ne vienne pas de la raison des hommes, mais que ça vienne du cœur de Dieu, d'accord ? Et ça, c'est une parole qui est tout à fait compréhensible, mais en même temps, je plaide un peu aussi pour vous dire, Dieu nous a donné de l'intelligence, de la science et une raison. Il nous a demandé de l'aimer de tout notre cœur, c'est vrai, de toute notre âme, mais aussi de toute notre pensée. Et donc, la raison doit être mise au service de Dieu, et ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Et je crois que si on a eu peur un peu de ça, et même parfois on a glissé dans l'anti-intellectualisme à certains moments, c'est parce qu'il y a des paroles, notamment chez Paul, qui peuvent nous apprendre à prendre garde. Par exemple, dans Colossiens 2:8, il y dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Et donc, il faut prendre garde que personne ne fasse de nous leur proie, c'est-à-dire qu'on soit attrapé et voire dévoré par des philosophies, c'est-à-dire des pensées qui ne viennent pas de Dieu, qui ne glorifient pas Dieu et qui en fait sortent du cœur de l'homme ou voire qui sont inspirées par le diable et les démons. Et en fait, le conseil de Paul, là, il est éminemment bon, évidemment, mais je crois qu'il ne s'oppose absolument pas à la sagesse que Dieu a donnée à Salomon pour connaître les arbres, les poissons et les choses. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas en fait sur le même plan. On n'est pas en train de parler de la même chose. Il y a cet autre verset, par exemple, dans 1 Corinthiens 2:8, où il est dit « Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Okay? Alors, est-ce que ça veut dire que nous, on ne doit pas aimer la sagesse? Non. La question, ce n'est pas la sagesse, ce n'est même pas l'amour de la sagesse. Et donc là, je vais vous en choquer, je vais vous choquer parce qu'il faut être philosophe. Philosophe. Philo, amour. Sophia, sagesse. Il faut aimer la sagesse. Il faut être philosophe. Mais il ne faut pas aimer la sagesse des hommes, il faut aimer la sagesse de Dieu. Et donc, il y a une philosophie spécifiquement chrétienne, c'est celle d'aimer la sagesse de Dieu, plutôt que celle qui vient des hommes, qui détestent Dieu, qui disent que Dieu n'existe pas, qui n'aiment pas Dieu. D'accord ? Quelque part, nous, on devrait être les vrais philosophes. On devrait être les détenteurs de la philosophie selon le cœur de Dieu, l'amour de la sagesse. Et pourquoi je le dis ? Parce que moi, je fais de l'apologétique et donc je vais parler avec des philosophes. Et qu'est-ce qu'ils veulent entendre ? Ils veulent entendre une sagesse. Mais ils veulent entendre une sagesse comme avait Salomon, une sagesse inspirée par Dieu. Et justement, c'est ce que dit Paul juste après, dans le verset juste après, parce que là, j'ai cité 2 Corinthiens 1, 2, 4 et 5, mais il dit au verset 6, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. » Il dit, « C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée de Dieu, avant les siècles, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Et donc, on a une sagesse qui nous est donnée, c'est l'Évangile. C'est le Christ fait homme pour le salut du monde. C'est ce qui est une folie pour les Juifs et un scandale, non c'est l'inverse, une folie pour les Grecs et un scandale pour les Juifs, un Messie crucifié pour nos péchés. Et dans 1 Pierre 1,11, il dit que l'Esprit de ce Christ habitait déjà dans les prophètes. Ils avaient une sagesse révélée dans leur esprit que le monde ne connaissait pas. Et notre sagesse, c'est Christ. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que nos églises, parce qu'on a la sagesse révélée par Dieu, devraient être très pertinentes dans la société, devraient être sur les plateaux de télé, devraient être dans des cours de philosophie, devraient être à chaque endroit de la société comme celui qui montre un exemple, devraient être parmi les maçons ceux qui forment à la maçonnerie. Parce que Dieu te donne envie de connaître comment faire former les choses. Et il a formé d'une terre informe et vide. Il en a fait une création magnifique, la terre. Quel que soit ton domaine, je crois que Dieu t'appelle à être rempli de sagesse dans ce domaine et à être une lumière et un témoin dans le monde avec cette sagesse éclairée par la sagesse de Dieu. Un proverbe que j'aime bien, un verset dans les proverbes que j'aime bien, c'est celui-ci, Proverbe 18, 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Hein, on a une expression, je crois, en français qui ressemble un peu à ça. Hein, celui qui, plus on a de science, plus on l'étale, c'est ça ? Moins on a de science, plus on l'étale. Et en fait, Dieu nous dit, celui qui est insensé, en fait, lui, son plaisir, c'est la manifestation de ses pensées. Moi, je crois que ça, c'est vraiment une parole pour Facebook, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étalent leurs pensées, mais est-ce qu'on prend le temps de se poser, d'analyser, de méditer, d'écouter le Seigneur ? D'écouter le monde, d'écouter nos contemporains pour arriver pas à la satisfaction du fait que j'ai parlé, mais à la satisfaction que Dieu donne à une intelligence éclairée par la vérité. Et je pense qu'on est dans une société de l'hyper-rapidité, de l'hyper-consommation, et qu'il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête absolument. Et qu'on pense. Dieu nous a donné une raison. Dans les situations de crise qu'il y a aujourd'hui, qui va amener une solution pertinente? Celui qui aura pris le temps de méditer en étant éclairé par le Seigneur. J'en suis persuadé de ça. Il y a une personnalité que je trouve extraordinaire, c'est Denis Mukwege, peut-être vous le connaissez. C'est un docteur qui est gynécologue et qui a été nommé prix Nobel de la paix. Et ce monsieur, c'est un pasteur évangélique pentecôtiste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été élevé, biberonné à la Bible et qui est aujourd'hui un expert chirurgien qui recousait le corps des femmes qui avaient été mutilées pendant la guerre, qui a réussi à installer un hôpital et qui a imposé une façon de faire dans son pays via une science profane qu'est la médecine, mais inspirée par des manières de penser et des manières de faire qui viennent de Dieu. Lorsqu'il reçoit une femme qui a été mutilée, violée à cause d'hommes extrêmement violents pendant la guerre, il ne s'occupe pas seulement de restaurer son corps, il essaye d'entourer cette femme et d'avoir une équipe extrêmement bienveillante pour faire parler cette femme, pour mettre en lumière ce qui est dans les ténèbres, parce que tout ce qui est mis en lumière devient lumière, pour amener une démarche de pardon, pour amener une démarche de guérison intérieure. Et il fait sa médecine avec l'éclairage de l'Évangile. Et il y a des femmes qui sont reconstruites physiquement et aussi moralement, et elles sont capables même de se prendre en charge pour aller parler à d'autres femmes et devenir des témoins et des lumières pour ces femmes. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Et moi, je rêve que dans nos églises, en fait, on ait de l'ambition. Comment ceux qui sont appelés à être des flambeaux et à ne pas être sous le boisseau n'auraient pas l'ambition de briller? Et cette ambition, ce n'est pas une ambition malsaine, parce qu'on ne brille pas de notre gloire, mais on brille de la gloire de Christ. Et j'aimerais vraiment, au fond de nous, que Dieu aujourd'hui nous communique cette envie d'être des lumières dans le monde, comme ce docteur-là. De ne pas avoir peur de ça. D'assumer que nous sommes le peuple de Dieu. Qu'il va nous donner le courage pour briller. Nous sommes l'Église du Seigneur. Et on a et on reçoit de lui une sagesse que personne d'autre n'a, et que pourtant le monde désire ardemment. La sagesse que nous avons, c'est celle qui va nourrir les âmes, qui nous vient de la parole de Dieu. En fait, j'aimerais que l'Église prenne conscience de sa mission, prenne conscience de sa vocation, et que chacun prenne conscience de sa mission et de sa vocation. Alors, je ne vais pas m'arrêter à là. Je vais vous parler encore plus de la parole de Dieu. Moi, personnellement, je crois que je n'applique pas encore, et même, c'est sûr, parfaitement bien ce que la Bible enseigne, ni même que je la connais suffisamment. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je l'aime. J'aime la parole de Dieu. Et je ne l'aime pas parce qu'elle me fait toujours du bien. Je l'aime aussi parce que parfois, elle me fait mal, au sens où elle vient corriger mes pensées, où elle vient émonder mon caractère, où elle vient mettre le projecteur sur mes ténèbres. Mais tout ça, c'est pour mon bien. C'est la parole de mon papa. La parole de celui qui m'aime et qui ne veut pas que je demeure dans ma petitesse et qui veut m'amener à la ressemblance de son fils. Et cette parole, franchement, je l'aime. Je l'aime. Et parce que je l'aime, au moins un peu, au moins un petit peu, j'ai envie ce matin de vous communiquer de cet amour pour la parole, de cet amour pour le texte de la Bible. J'aimerais vous dire que vous n'avez pas encore goûté la joie insondable qu'il y a dans la parole de Dieu. Et je vous le dis, même si vos cheveux ont commencé à blanchir il y a longtemps, et même si vous avez lu la Bible 500 fois en langue originale, vous n'avez pas épuisé les bontés de Dieu qu'il veut vous faire connaître dans le texte de la Bible. Et si vous êtes blasé par l'étude biblique, si vous êtes blasé par la parole de Dieu, Ce n'est pas parce que la parole ne vous nourrit pas, ce n'est pas parce que la parole est épuisée, c'est parce que votre amour pour la parole est épuisé, et ça, ça doit changer ce matin. Ça, ça doit revenir quelque chose de central dans votre vie. Donc, j'attire votre attention et je lui dis vraiment, soyez attentifs maintenant à ce que je vais vous dire maintenant, parce que ça a plus de valeur que tout ce dont vous pourrez être distrait. Tout ce qui pourrait vous distraire aura moins de valeur que ce que je vais vous dire là. Et je vous dis, soyez attentifs parce que je connais comment dire, je vais le dire autrement. Peut-être que vous êtes de ceux qui aiment beaucoup venir à l'église pour la louange et prendre du temps dans l'adoration du Seigneur Jésus. Et ça, c'est bon. C'est excellent. Ça vient vraiment du Seigneur. Mais à partir du moment où le prédicateur ouvre la bouche, vous vous sentez traversé par un grand frisson de fatigue et vous avez commencé les paupières qui commencent un peu à se fermer et finalement, vous avez envie de piquer un petit roupillon. Et en fait, c'est possible. C'est possible que votre cœur à vous, votre caractère, il est un peu comme ça. Il est plus attiré par des choses sensibles autour de la louange que par un discours qui va être à sens unique pendant plusieurs minutes. Et ça, je le comprends. C'est-à-dire, on est tous français, on a tous vécu les bancs de l'école, et des fois, on s'ennuie, c'est clair. Okay? Donc, ce n'est pas une condamnation. Peut-être que vous êtes comme ça. Mais, s'il vous plaît, alors que je parle, là, maintenant, ne dormez pas. Ne soyez résistez contre ce frisson de sommeil, d'accord? Parce que je vais vous donner un verset, et pas un verset, un demi-verset. Et même pas le début du verset, mais la fin d'un verset, d'accord? Et je veux que vous écoutiez ce verset. Et si vous dormez, vous ne pourrez pas l'écouter. Ce verset, c'est ça. Il reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Et je vais vous demander qui ici connaît le début de ce verset. Levez la main. Ah, il y a une personne. Bravo, famille Manufi. Manufis ? Manufi ? Bravo. Le début de ce verset, il vous intéresse parce que je suis persuadé que vous voulez vous reposer avec assurance. Vous voyez ? Il fallait écouter, il ne fallait pas dormir. Je suis sûr que pour bien vous reposer, vous voulez savoir comment faire. Okay ? Et je suis persuadé, à moins que je me trompe, que vous avez envie de vivre tranquille et sans crainte d'aucun mal. J'en suis sûr. Qui n'a pas envie de vivre tranquille et sans crainte d'aucun mal ? Ok. Alors, je vais vous dire maintenant ce qu'il y a dans le début de ce verset, qui fait qu'on va se reposer vraiment avec assurance et qu'on va vivre tranquille sans crainte aucun mal. C'est dans Proverbe 1:33 et le verset, il dit « Mais celui qui m'écoute se reposera. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans crainte aucun mal. » Vous voyez, ce n'est pas en n'écoutant pas la parole qu'on va se reposer. C'est en écoutant le Seigneur. En fait, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que le repos pour nos âmes va venir de notre connaissance du texte, de notre connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'en connaissant l'instruction de la sagesse que Dieu a donnée dans l'Écriture, on va avoir en nous les armes pour affronter les situations qui font qu'on ne dort pas. Les situations qui font qu'on n'a pas l'esprit tranquille, elles trouvent leur solution par des conseils qui sont dans la parole. Les situations qui nous font craindre le mal, elles trouvent des solutions par des conseils qui sont dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on a conscience de la valeur de la parole de Dieu ? De ce qu'on a entre les mains. Alors du coup, ce verset qui nous dit, celui qui écoute Dieu aura ces bénédictions-là. Donc ma question à moi, c'est comment entendre la voix de Dieu? Moi, je veux t'écouter, Seigneur, mais comment entendre? Eh bien, encore une fois, la réponse, elle est où? Dans la parole. Et dans 2 Timothée 3, il est dit, toi, et c'est Paul qui parle à Timothée, demeure dans ces choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais, écoutez bien, les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Regardez ici, Paul, il dit à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous êtes en train de lire quelque chose qui est inspiré de Dieu. Et si vous vous demandez comment entendre Dieu, c'est simple, vous ouvrez la Bible et vous commencez à lire. Parce que chaque mot, chaque lettre est inspiré de Dieu. C'est très simple, non? Et Paul ne dit pas seulement que toute l'écriture, elle est inspirée, hein. Il ne se limite pas à ça, hein. Mais je vais revenir là-dessus. Ce que je veux vous faire dire, c'est que, par exemple, il y a une semaine, j'entendais Paula White, dans l'environnement de Donald Trump, qui prophétisait que Donald Trump serait élu. D'accord? Et aujourd'hui, alors peut-être que les décomptes vont faire mal à cette prophétie, mais j'ai l'impression qu'elle s'est plantée. Toutes les prophéties qui sont données dans nos églises ne sont pas inspirées de Dieu. Moi, la première prophétie qu'on m'a donnée dans ma vie chrétienne, elle ne s'est jamais réalisée. J'aurais dû être un rappeur chrétien, on m'avait dit ça. Mais moi, connaissant mon sens de la musique, je savais à la seconde que ça n'allait jamais arriver. Mais la personne a été bienveillante, elle m'aimait, hein, et j'aime cette personne encore. Mais elle s'est plantée. Et donc, je vous le dis, toutes les prophéties, parfois certaines sont inspirées, parfois elles sont inspirées et teintées de beaucoup de notre humanité, et parfois elles ne sont même pas inspirées. On confond notre sentiment personnel avec ce que Dieu dit, l'Esprit dit. Mais par contre, toute écriture est inspirée de Dieu. Et je dis ça sans accusation. Dans nos chants, il y a des paroles qui ne sont pas inspirées de Dieu. Si, par exemple, vous entendez un chant qui dit « Dieu, tu donnes ta grâce quand je te loue », eh bien, cette parole, elle n'est pas inspirée de Dieu. Alors, je peux comprendre que je ressens la grâce de Dieu quand je le loue, mais Dieu ne donne pas sa grâce quand on le loue. Dieu, il a donné sa grâce par la mort de Jésus à la croix, une fois pour toutes, que tu le ressentes, que tu ne le ressens pas, que tu le loues ou que tu ne le loues pas. Donc, si tu as une parole d'un chant comme ça, en fait, il faut la corriger. À l'aide de quoi? À l'aide de la parole de Dieu qui, elle, est inspirée de Dieu. Vous voulez un rendez-vous divin? Vous voulez connaître l'instruction et la sagesse? Ouvrez vos Bibles. Je dis vous, mais je devrais dire nous. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Et Paul, il ne dit pas seulement que la Bible est inspirée, il dit les saintes lettres. Donc, c'est déjà une belle expression. J'aime beaucoup cette expression, les saintes lettres. Hein? Nos Bibles, c'est un ensemble de lettres. C'est un ensemble, c'est des écritures. Les saintes écritures, elles sont saintes. Elles sont remplies du caractère de sainteté de Dieu. Eh bien, elles peuvent quoi? Elles peuvent nous rendre sages à salut par la foi en Jésus. C'est-à-dire qu'on ne va acquérir le salut. Le salut va nous être donné par le truchement, par l'intermédiaire des écritures. Parce que les Écritures, elles renferment quoi? Elles renferment l'Évangile. Elles renferment la prédication de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pour nos péchés. Elles ne le renferment pas simplement comme ça, en une phrase, comme je viens de le dire. Elles le renferment par des milliers et des milliers d'enseignements qui gravitent autour du plan de salut de Dieu. Depuis l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous apprenons le salut. Alléluia. Et ce que j'aime beaucoup avec Paul, c'est qu'il ne dit pas à Timothée, « Bon, tu es né dans une famille chrétienne, ta maman était chrétienne et tu as appris la Bible depuis tout petit. Maintenant, laisse ça tomber, tu connais ça par cœur. Maintenant, c'est bon. Tu as ton master en Bible et donc le diplôme est passé et maintenant tu peux enfin aller dans le monde avec ce diplôme et travailler. » Non ! Jamais de la vie. Il dit, demeure dans ce que tu as reçu. Il dit, demeure. Il dit, en fait, surtout pas. Ne fais surtout pas ça. Oui, tu as reçu ça depuis l'enfance, mais c'est encore ça qui va te nourrir aujourd'hui. C'est encore ça qui va te faire du bien. C'est encore ça qui va t'émonder. C'est encore ça qui va t'amener plus loin avec le Seigneur. Vous imaginez Paul, pharisien, il a appliqué la loi au pied de Gamaliel. Il est à la fin de sa vie, il va bientôt mourir. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'on demeure dans l'Écriture. Il a fait ça toute sa vie, l'Écriture, et ce qui l'intéresse, c'est qu'on demeure dans l'Écriture. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce message-là qui est si incroyable ? Une parole de Dieu. Une parole utile pour enseigner, une parole utile pour convaincre, une parole utile pour corriger, une parole utile pour instruire dans la justice. Et finalement, pourquoi ? Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Alors, je m'arrête. On est dans une société qui veut qu'on s'accomplisse, qu'on soit dans l'accomplissement de nos personnes, n'est-ce pas ? Et là, Paul, il nous explique que si tu demeures dans les lettres, tu vas devenir un homme de Dieu accompli. Alors, ça s'applique pour vous, mesdames. Hein. L'accomplissement. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on cherche à s'accomplir dans cette société ? Alors, bien sûr, dans la Bible, le mot accomplissement, il n'a pas tout à fait la même connotation de plaisir hédoniste pour devenir qui je suis. Il a plus la connotation de devenir complet, de devenir pleinement armé pour un but. Et là, c'est clair dans le texte, pour pratiquer toute bonne œuvre. Et donc, tu aimerais pratiquer toute bonne œuvre, mais comment est-ce que tu vas être équipé pour le faire ? Eh bien, demeure dans les paroles de Dieu. Demeure dans la connaissance de l'Écriture et approfondis-la. Parce qu'elle est utile pour toi, encore aujourd'hui, même si tu as la flemme, même si tu es blasé, même si tu l'as lu 15 000 fois. Comment la parole de Dieu, que les apôtres disaient, tu as les paroles de la vie à Jésus, comment la parole de vie peut devenir blasante pour nous ? Pourquoi ? Est-ce que vous pensez que le problème, il est du côté de la parole ou le problème, il est de notre côté à nous ? Donc, la question que j'ai pour nous ce matin, c'est est-ce que nous avons envie d'être parfaitement équipés ? J'ai une autre question. Est-ce que nous écoutons encore Dieu au travers de la Bible pour reposer avec assurance, vivre tranquille et sans crainte aucun mal ? Quelle est la place de la parole en ce moment, dans cette saison de ta vie ? Quelle est la place, mais en étant sincère ? En étant sincère avec toi-même. Et je vous dis, vraiment, il n'y a pas de parole d'accusation. On se sonde nous-mêmes pour savoir où on en est. Diagnostique-toi. Quelle place elle prend en ce moment, la parole de Dieu dans ta vie ? Eh bien, là, ce verset qui parle de reposer avec assurance, vivre tranquille, ne craindre aucun mal, qui est lié à l'écoute de la parole de Dieu, C'est une déclaration générale, il faut qu'on s'entende. La Bible ne nous ment pas. Elle ne nous dit pas que tout est, la vie est un long fleuve tranquille, on n'aura pas de moments difficiles, d'accord? Mais par contre, elle nous apprend que même au travers les moments douloureux, la parole va venir pour être un baume sur notre cœur. Au travers les moments difficiles, la parole va être cette sage conseillère, la voix même de Dieu pour nous aider à affronter la vie. La parole de Dieu, elle va être une boussole. Et nous ne sommes pas perdus si nous avons vraiment cette parole avec nous, constamment à l'esprit. Eh bien, on n'est pas perdu comme en pleine mer dans la tempête. Parce que dans la parole de Dieu, bien, il y a une lumière vivifiante quand on est dans les ténèbres. Il y a une brise légère quand on a besoin de douceur. Il y a une force surnaturelle qui vient nous percuter, finalement nous habiter, pour que nous aussi nous soyons remplis de force face aux épreuves. Il y a un amour enveloppant pour ceux qui en manquent. Il y a une dureté contre le mal qui parfois nous revivifie face au péché. Bref, dans la parole de Dieu, en fait, il y a les caractères de Dieu. Il y a tous les attributs de Dieu que Dieu veut nous communiquer pour nous équiper et pour qu'on puisse passer les remous de la vie. Et aussi pour nous faire grandir à la ressemblance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a quelques semaines, j'ai raconté cette anecdote et je vous la raconter. Peut-être si vous avez écouté la prédication de mon église il y a quelques semaines qui parle de ça, vous allez entendre deux fois l'histoire, mais ce n'est pas grave. Surtout que je vais essayer de la dire de manière un peu spécifique aujourd'hui. Et je pense que je ne vais pas faire beaucoup plus long, je ne sais pas combien de temps que je prêche, mais je vais vous parler de ça quand même. Il y a quelques semaines, j'étais à la place que je suis là, donc à mon bureau, vous voyez. Je vais vous faire voir. Oups. Vous m'entendez, mais vous ne me voyez plus, c'est bien ça. Alors, attendez, excusez-moi. Ok, j'ai changé de caméra. C'est pas grave. J'étais là, voilà. Ici, à ma table, avec mes livres, en train d'étudier. Et j'aime énormément cet endroit. C'est là où je me sens bien pour passer du temps à lire la Bible. Et en fait, j'ai repris des études cette année dans un master de théologie. Et donc, j'avais un devoir à rendre sur le livre de l'Exode. Et donc, j'ai dû lire le livre de l'Exode. Et comme tout bon étudiant, je suis à la bourre à chaque fois que je dois rendre quelque chose. Bah, j'ai dû lire le livre en une journée. Et c'était mais tellement bien. En fait, j'ai lu l'histoire de Moïse d'une traite. Depuis qu'il est tout bébé jusqu'à la fin de la construction du tabernacle au dernier chapitre, au chapitre 40. Et donc, j'ai lu 40 chapitres. Ça intéresse en 40 chapitres pour le livre de l'Exode. Il y a peut-être quelque chose là derrière. Et c'est très intéressant. Je regardais la vie de Moïse. On veut le tuer quand il est bébé. Ah, et Jésus, on a voulu le tuer quand il est bébé. Et puis après, il a été sauvé, alors que c'était un souverain qui voulait sa peau. Comme Jésus, hein, voulait sa peau, c'était Hérode qui voulait sa peau. Et puis après, on progresse dans le livre et on voit qu'il est habité par une sainte colère. Un peu comme Jésus quand il est au temple et qu'il est habité par une colère et qu'il chasse les marchands du temple. Sauf que lui, il n'est pas pur comme Jésus et il voit des Égyptiens qui s'en prennent à des Hébreux et il va attraper ce gars-là, il va tuer l'homme égyptien. Il va être obligé de s'enfuir chez Jéthro, qui va devenir son beau-père. Et donc, il va partir un petit peu au désert. Ça me rappelle des éléments aussi par rapport à Jésus qui part à un moment donné, mais pas à cause de son péché par contre. Et puis, une fois qu'il est là-bas, en fait, Dieu l'appelle au milieu du buisson, c'est Exode 3,14, et au milieu du buisson, Dieu lui parle comme ça dans ce buisson, et lui dit « Moi, je suis, tel est mon nom, de génération en génération. » Et je me rappelle que Jésus, dans Jean 8,58, il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Et beaucoup de gens pensent que là, il est en train de parler avec les mêmes mots qui étaient les mots de l'Éternel. Et ensuite, Moïse, il doit revenir et il a la mission de sortir. Il a la mission de sortir les enfants d'Israël de la servitude qui était sous Pharaon. Et il part avec Aaron voir, si vous voulez, Pharaon. Et il devient le médiateur entre eux. Le peuple et Dieu, exactement comme Jésus qui est le médiateur. Et puis, il va engager une bataille face à Pharaon. Et il y a des plaies qui vont tomber. Et il va faire des grands miracles avec de l'eau et du sang. Et Jésus, il fait aussi des miracles avec de l'eau. Hein? Son premier miracle, d'ailleurs, c'est de l'eau, du vin, de l'eau transformée en vin. Et en fait, on va voir ce Moïse-là qui va lutter jusqu'à ce qu'il va avoir la dernière plaie, des 10 plaies d'Égypte. Et en Exode chapitre 12, eh bien, il y a tous les premiers-nés qui vont mourir, sauf ceux qui étaient sous les linteaux badigeonnés de sang. Hein, le sang de l'agneau, avec l'institution de la Pâque dans Exode 12, Exode 12, 5 de mémoire. Et là, on a aussi Jésus qui appelait notre Pâque dans le Nouveau Testament. Et finalement, j'avais comme ça ce parcours, et ce parcours, il continuait. Et à chaque étape du parcours, je voyais le Seigneur. Je voyais le Seigneur dans les sacrifices que Moïse faisait, et il répandait du sang sur le peuple. Et on voyait que Jésus a dit moi-même, j'ai versé mon sang pour la rémission du peuple. Et on parcourait, je parcourais, et Jésus était partout. Je voyais Moïse transfiguré, le visage lumineux sur la montagne, comme Jésus était transfiguré sur la montagne. Et je voyais Moïse qui était vraiment cet intercesseur, cet intermédiaire, hein, qui était le seul à avoir vu Dieu pratiquement face à face. Et je me rappelle que dans l'évangile de Jean, il dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils unique. Et c'est lui qui l'a fait connaître, lui qui est dans le sein du Père. L'intimité de Jésus et l'intimité de Moïse. Il y avait quelque chose de similaire. Et puis Jésus, il a dit qu'il était le temple. Et qu'est-ce qu'a voulu faire Moïse? Eh bien, il a construit un tabernacle où l'Esprit de Dieu est venu. Et finalement, ça, c'était qu'une préfiguration de Christ qui était baptisé dans Matthieu 3, versets 16 et 17 de l'Esprit. Et il était lui-même le temple de Dieu. Il a dit, je suis le temple de Dieu. Vous voyez, mon cœur était en train de brûler au fond de moi parce qu'en une journée, je voyais Christ dans l'Exode. Waouh! Waouh! C'était incroyable. Et j'étais là, et j'étais tellement bien, je me suis dit, il faut que je communique ça. J'ai pris une petite photo de moi, je l'ai envoyée sur Facebook, et j'ai noté, sur ça, j'ai noté quel privilège d'étudier la Bible. Et j'ai eu plein de commentaires super sympas. Des commentaires de gens qui ont dit, ouais, amen, c'est vrai, la Bible c'est important, etc., etc. Des commentaires positifs, ok. Parce qu'on est en train, en tant que chrétien, on se comprend. Il y a quelque chose de magnifique dans la parole de Dieu, c'est un trésor. Mais il y a quelqu'un qui était plus spirituel que les autres. Et cette personne, elle a écrit un petit commentaire en disant, on ne vous a pas donné la Bible pour l'étudier, mais on vous a donné la Bible pour l'appliquer. Et moi, mais moi j'étais bien. Moi, mon cœur brûlait au-dedans de moi. Et cette parole qui aurait pu être une parole sage, en fait, je la vivais comme une parole de condamnation. J'aurais aimé que le frère dise « Amen, mon frère, tu étudies la parole et c'est bien et Dieu nous encourage à l'appliquer. » Mais ce n'est pas comme ça qu'il m'a parlé. Il a parlé un peu avec un ton accusateur. Vous, là, les gens, les théologiens qui méditaient la parole, c'est bien, mais vous allez vous commencer à l'appliquer? Et pour être honnête, je n'ai pas reçu de cette parole comme venant de Dieu, bien qu'elle dise une partie de vérité. Parce que c'est clair, même dans l'épître de Pierre, nous apprenons n'aimez pas en amour, mais aimez en acte. Et Dieu ne nous demande pas de nous cantonner à méditer la parole. Il faut la mettre en pratique. Mais pourquoi opposer les deux? Pourquoi opposer les deux? Est-ce que la Bible oppose les deux? Et forcément, où est-ce que je suis allé chercher la réponse à cette question? Dans la parole. Alors j'ai ouvert ma Bible et j'ai découvert ce verset magnifique dans Esdras 7, 9 à 10. Et voici ce qui est écrit. La bonne main de son Dieu était sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Merci Seigneur. La bonne main de Dieu était sur lui parce qu'il avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique. Il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de disjonction. Vous voulez mettre en pratique la parole, étudiez-la, connaissez-la. Qui va mettre en pratique une parole qu'il ne connaît pas? C'est insensé. Jésus, en fait, il est la parole. C'est-à-dire qu'il est la pratique lui-même. Mais il est aussi appelé la sagesse de Dieu. Si je veux appliquer la parole, il faut que je connaisse la loi de l'Éternel dans l'Ancien Testament et il faut que je comprenne et que j'observe la vie du Christ lui-même, que je médite ses actions pour qu'elles soient miennes et que je les fasse miennes et que je les mette en action. Aimons l'instruction et la sagesse. Méditons les paroles de l'Éternel. Moi, je désire que la bonne main de Dieu soit sur moi et vous. Et donc, je veux pas refuser de me mettre à étudier sa parole. Cet après-midi, je vais donner un enseignement, ça va durer 2h30. Alors, il y aura des questions-réponses. Mais ça va durer, on a en tout cas un créneau de 2h30. Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour creuser, pour comprendre qui est Jésus, sa divinité, son humanité, l'union entre les deux. Et ce thème-là, en fait, ça peut paraître juste théorique, mais c'est tout l'inverse. Comme a dit David, c'est fondamental. Si je ne connais pas la divinité de Jésus, mais je ne sais pas qui je loue, je sais peut-être que je vais louer un faux Dieu. Si je ne connais pas l'humanité de Jésus, ben je ne vais pas pouvoir me réjouir dans tous les aspects de son humanité parfaite. Je ne vais même pas pouvoir me réjouir pour son sacrifice parce que c'est en tant qu'homme qu'il est mort. Si je ne connais pas comment les deux s'unissent, ben peut-être que je vais laisser ça que de l'ordre du mystère, et c'est vrai qu'il y a un mystère, mais petit à petit, le doute peut gagner. Et puis moi, mes amis musulmans, ils disent, vous voyez, la Trinité, c'est un mystère parce que c'est fou. Puis l'incarnation, c'est un mystère parce que c'est fou. Donc ça ne sert à rien de croire en quelque chose de fou. Non, non, moi, je vais m'appliquer à comprendre ce que l'Écriture dit. Tu veux comprendre? Eh bien, c'est une bonne chose. Tu veux comprendre comment être une femme vertueuse? Lis les Proverbes 31. Tu veux comprendre pourquoi le monde va mal? Lis Genèse 1 à 3. Tu veux t'éloigner du diable? Lis l'Épître aux Éphésiens. Tu ne sais pas comment prier? Lis les psaumes. Tu manques de sagesse? Lis Jacques, lis les Proverbes. Tu veux savoir comment te comporter dans un poste à responsabilité, par exemple, en tant que chrétien? Lis Daniel, lis la vie de David, lis la vie de Salomon. Lis la vie des bons et des mauvais rois d'Israël, parce qu'on apprend à la fois avec les bons exemples, mais aussi les mauvais. Tu veux comprendre la fin des temps? Lis l'Apocalypse. Mais lis pas que l'Apocalypse, lis aussi tous les prophètes qui ont nourri le livre de l'Apocalypse. Tu veux comprendre l'homme et sa nature, sa vocation, ses limites? Bah, lis toute la Bible. Tu veux savoir comment entrer dans la vie éternelle? Lis les évangiles, les actes, les épîtres. Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Lis Luc 11. Tu veux savoir comment te comporter avec les autorités? Lis Romains 13. Tu veux savoir comment te comporter avec les pauvres? Lis Matthieu 25. Bref, toute la Bible, c'est le socle. Ce qui est dans la Bible, c'est le socle de notre vie. Bien sûr, c'est avec en relation avec le Dieu vivant. Ce n'est pas une étude d'un texte, d'accord? C'est l'étude d'une parole qui vient d'un Dieu vivant. Mais malgré tout, quoi qu'on en dise, le texte biblique, c'est notre parole inspirée et sans erreur. Est-ce que j'ai encore 2 minutes? Tu me fais ça ou ça et je fais en fonction. Je vois les gens qui lèvent le pouce, mais un responsable. Farid? Ouais, ok. Merci David. Ok, je t'ai vu. Je veux juste dire une dernière chose. Lorsque j'étais tout à l'heure, j'ai parlé de mon cœur qui brûlait au-dedans de moi. Hein? Quand je lisais le livre de l'Exode. Et lorsque j'étais. Il y a 10 ans, j'avais fait un cours à la faculté de théologie et j'avais un prof que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alain Isus, peut-être vous le connaissez. Et c'est un prof qui est brillant, c'est vraiment une personne brillante. Et Alain, en fait, il disait souvent, on pose la question aux chrétiens, dans quel moment de la Bible, à quel passage de la Bible vous aimeriez être? Si vous aviez un moment à vivre dans la Bible, ce serait lequel? Au moment où Moïse ouvre la mer en deux, au moment où Jésus calme la tempête, peut-être, au moment où son visage est transfiguré sur la montagne, c'est quoi le moment que vous auriez aimé vivre? Et lui, ce qui était marrant, c'est que, en bon prof de théologie, il dit, ah, moi, c'est absolument pas ça. Moi, c'est le moment dans Luc chapitre 24 où il y a deux disciples d'Emmaüs qui sont en train de pleurnicher parce que le Messie est mort et Jésus les rejoint. Et là, en fait, le texte, il dit que Jésus commençait à leur expliquer tout ce qui le concernait dans les Écritures, dans la loi et les prophètes. Et il dit, mais qu'est-ce que j'aurais aimé être dans cette étude biblique ? Jésus qui explique dans toutes les Écritures où il est. Et moi, toute ma vie, c'est de voir, il est où Jésus dans les Écritures ? Et ce qui est fort dans ce passage, c'est qu'une fois que Jésus s'est révélé à eux et qu'il est parti, ils se disent les deux l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'il nous expliquait tout ce qui le concerne dans les Écritures ? Et en fait, aujourd'hui, éclairé par l'Esprit Saint, on peut avoir exactement le même sentiment que les disciples d'Emmaüs. Christ nous a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là. Quand tu ouvres ta Bible, il est là et il va éclairer tes pensées pour que tu le trouves dans les Écritures et ton cœur va brûler. Moi, mes frères et sœurs, je ne me suis pas laissé voler la joie par cet homme qui me dit que je n'accomplissais pas l'Écriture. J'ai d'abord voulu profiter avec le Seigneur. Et c'est vrai, c'est ma responsabilité de mettre en pratique. Et c'est ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui. J'aimerais vraiment qu'on puisse découvrir à nouveau, avec l'aide du Saint-Esprit, que ouvrir la Bible pour y trouver Christ, c'est quelque chose qui peut faire brûler ton cœur de joie. Et c'est une joie qui est inaltérable, c'est une joie qui est magnifique. Pourquoi ? Parce que c'est la joie de connaître le Seigneur. Or, la vie éternelle, Jean 17, 3, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé ton fils. On va passer la vie éternelle. Alors, avoir la vie éternelle, c'est les connaître. Mais je crois qu'on peut aussi lire ce verset. La vie éternelle, c'est de connaître le Seigneur. Et le but de la vie éternelle, c'est d'être en communion de le connaître. Dieu nous a donné les Écritures pour commencer à le connaître. Ne limitons pas cet aspect. C'était mon message d'aujourd'hui. Et je peux juste prier 2 minutes pour que Dieu soit, au travers de ses paroles, une œuvre de révélation pour vous. Seigneur Jésus, j'aime ta parole, je me délecte de ta parole. Et Seigneur, je prie que notre église, notre mouvement d'église, New Ground, soit rempli d'hommes et de femmes qui se délectent de ta parole, qui ont le cœur bouillant, brûlant pour ta parole. Parce qu'ils t'aiment toi, nous t'aimons toi, nous aimons trouver ta présence dans la louange, mais aimons, je t'en prie Seigneur, communique notre amour de te trouver dans les Écritures. Chaque jour de notre vie, Seigneur, il y a tellement de bonté, il y a tellement de sagesse, il y a tellement de beauté dans ta parole, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, même que tu donnes l'envie de connaître la parole par des moyens nouveaux, pas seulement lire le texte pour ce qu'il me dit, le texte pour ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu disais à Moïse ? Qu'est-ce que tu disais à David ? Même si ça ne me concerne pas, quelle était la culture dans laquelle tu parlais ? Quelles étaient les personnes ? Quelles étaient leurs représentations, leurs pensées. Seigneur, il y a 1000 façons d'étudier ta parole. Et je te prie, Seigneur, que quelle que soit la façon que tu utilises aujourd'hui pour mes frères et mes sœurs de l'église de Marguerite, que tu donnes encore plus faim, plus soif de connaître cette parole que tu as appelée un pain de vie, un pain quotidien pour nous, Seigneur. Et je te prie vraiment, Seigneur, que soit communiquée une passion, une envie aujourd'hui, pas par moi, pas parce que je crie fort dans le micro, mais parce que ton esprit juste parle au cœur, Seigneur. Vraiment, donne de l'amour pour ta parole à chacun d'entre nous. Que nous soyons un peuple accroché à ta parole, sur la main, et que ta main soit avec nous, parce que nous nous attachons à l'étudier, à la mettre à pratique et aussi à l'enseigner dans nos foyers et dans nos églises. Au nom de Jésus, Amen.